Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une demande fréquente apparemment sur les moteurs de recherche, une entrée courante. À peine ai-je tapé « le plus vieil » que l'algorithme me propose « arbre du monde ». Ensuite, les rumeurs vont bon train, on parle de séquoia géant, d'un spécimen italien, d'Amazonie. Une fois les informations recoupées, il apparaît que jusqu'en 1964, c'est un pin découvert en Californie qui a détenu le record. Il est âgé de 4847 ans aujourd'hui et prénommé Mathusalem. Pour empêcher les mouvements de foule, adoration et autres dépravations de cet ancêtre, sa localisation précise est encore tenue secrète. Mais voilà qu'en 2004, coup de théâtre, on découvre au nord de la Suède un arbre encore plus ancien. Un sapin dans le pur style du sapin de Noël. D'après les analyses au carbone 14 et les estimations du très vénérable chef du département de contrôle écologique du nord de la Suède, Lars Hedlund, son système racinaire est âgé de 9557 ans à ce jour. Le spécimen, que vous pourriez croiser si vous alliez passer un peu plus de temps en Dalecarlie, est né dans les années 7542 avant Jésus-Christ. C'est à l'époque la grande mode de la chasse et de la cueillette, dans le style mésolithique, première période post-glaciaire, en mode début du réchauffement climatique. Sa longévité exceptionnelle s'explique par une sorte d'autoclonage permanent qui permet son renouvellement. Quand une tige meurt, une nouvelle émerge. Il s'appelle Ol Chico, il vit sur une petite montagne dans cette province couverte de lacs et de forêts, de trolls et de tom-tom. Son emplacement n'est pas exactement tenu secret, mais les autorités manifestent une certaine réticence à l'égard de ceux qui souhaitent aller le voir, assortie d'une interdiction de le photographier. Tout de suite dans les pieds sur terre, trois autres histoires d'arbres et d'hommes qui les ont vus ou pas, par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était donc un matin d'été, fin juillet. Ça se passe à Luçon, en Vendée, à 20 minutes de la côte. Ma mère rentre du marché un peu affolée en disant « Ils sont en train de couper tous les arbres en face de la maison. » Mon père et moi, donc, on va voir à la porte de la maison. Effectivement, en face, donc à 100 mètres, passe une départementale. Et avec plein d'arbres à droite et à gauche de la route, centenaire. Et là, donc, une moitié de la route était en train d'être coupée à la tronçonneuse pour faire passer un convoi d'une coque de bateau, donc d'une trentaine de mètres. Un convoi, devant chez mes parents, il en passe souvent, organisé bien longtemps à l'avance. Les itinéraires sont étudiés pour savoir si les largeurs sont bonnes, s'il n'y a pas une maison qui gêne, un arbre qui gêne, n'importe quoi qui gêne. Et là, je me suis dit, mais pourquoi donc ? Il passe ici visiblement dans l'urgence, parce que le convoi était bloqué à un bout de la route et il fallait qu'il passe. J'imagine qu'il y a eu une erreur dans le calcul de l'itinéraire et dans le calcul des dimensions pour savoir si ça pouvait passer. À côté, il faut savoir quand même qu'il y a deux champs, un qui n'avait pas de culture dessus et l'autre, je crois, aussi. Donc des deux côtés, on pouvait passer dans un champ libre de culture. La veille, il avait assez plu et donc évidemment, ça avait un peu détrempé la terre des champs. Donc j'imagine que le convoi aurait peut-être pu passer par là le lendemain, voire même l'après-midi. Maintenant, il fallait que le convoi arrive le soir même au Sable d'Olonne. Et le trajet était long pour ce convoi. Et donc, il fallait absolument qu'il passe à Luçon le matin. Mon père commence à dire « on ne peut pas laisser faire ça ». Commence à prendre le téléphone, à essayer d'appeler la mairie de Luçon pour savoir s'ils étaient au courant. Le temps d'avoir la bonne personne, ça a pris quelques minutes. La mairie n'était au courant de rien. Donc moi, ça commençait à un peu m'énerver ce qui se passait, puis je voulais aller voir de plus près. Donc je vais sauter dans les premiers habits venus et je vais voir. Et donc mon père m'a dit, je vais avec toi.
«
La route donc fait à peu près 600 mètres et donc les arbres, il y en avait tout du long, tous les 20-30 mètres. Donc j'arrive sur cette scène et tout de suite avec mon père, on s'approche. Donc là, je commence à mieux voir qu'il y avait encore des arbres qui étaient en train d'être coupés. Et là, donc, il y avait des motards qui ouvrent le convoi, qui barraient la route pour dévier la circulation. Mon père discute avec les motards. Moi, il me disait « prends des photos ». Donc je sors mon téléphone, je commence à prendre des photos. Les motards me disent « non, vous ne photographiez pas ». Nous, on dit « si, on va photographier ». Donc moi, je tremblais énormément en essayant de prendre mes photos. Je n'y arrivais même pas, d'ailleurs. Je tremblais tellement, j'arrivais pas à appuyer sur le bouton. J'étais très en colère, en fait, de voir ces arbres qui tombaient à cause de ce convoi, qui était très large, certes, de 9 mètres de large. Et là, donc, on s'en va voir notre voisin, essayer de le trouver dans sa ferme pour savoir s'il avait été averti. Donc, on le trouve rapidement, il était dehors. Mon père dit « Est-ce que tu étais au courant de ça ?» Il me dit « Bah oui, bien sûr. » Ils m'ont appelé pour savoir même si on pouvait passer dans le champ d'à côté, qui m'appartient. Voilà, donc il me dit, ils m'ont appelé il y a 2-3 jours pour savoir si c'était possible, mais je n'ai pas eu d'autres confirmations depuis si le convoi allait effectivement passer dans le champ ou pas. Et donc mon père continue de discuter un petit peu avec lui. Moi, je reviens le long de la route parce que le convoi était quasiment au niveau de cette ferme. Donc là, je vois les engins de toute la DDE, les voitures, les tracteurs, etc., qui avancent devant le convoi, en fait. Et ces arbres qui tombaient toujours. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises au moment où tout ça s'est passé. Donc voilà, donc là j'étais assez proche des deux derniers arbres à être coupés, à 50 mètres de moi, donc j'en profite pour filmer. On coupe tout parce qu'on a une consigne et on s'en fiche de savoir quels dégâts ça peut faire sur l'environnement, sur l'image de la ville, sur l'attachement peut-être des habitants à cette route qui était jolie avec ces arbres.
Bonjour monsieur, ça ne vous plaît pas du tout ce qui se passe, hein ?
C'est mon père qui parle à la fin. Moi j'ai fini par arrêter parce que il n'y avait plus grand chose à filmer. Le convoi donc est passé, donc ça a mis du temps puisqu'il y avait 2 coques de bateau d'une 30aine de mètres. Et puis donc après, donc là tous les véhicules étaient partis. Et là je vois l'alignement des arbres par terre avec tout le feuillage qui était en plus très bien fourni puisque c'était l'été, bien vert et des arbres pas malades, rien du tout. 30 arbres par terre en l'espace de 2 heures, comme des morts sur une route. C'est des arbres morts de toute manière qui viennent de mourir alignés sur les 600 mètres de route. Et un désert, un no man's land d'un coup. Le bruit du convoi était passé, les ouvriers étaient partis et plus rien. Et complètement démunis face à la situation. Donc c'est assez pénible. C'est aussi de voir ce moment où en 2 heures de temps, on défigure complètement un paysage. Et que rapidement derrière, parce que l'après-midi qui suivait et le lendemain matin, les arbres étaient débités et broyés. Et au moment de déjeuner, donc on était sur la terrasse avec mes parents et on entendait ce bruit incessant de la broyeuse en fait. Les arbres étaient débités en tronçons et donc là ils passaient tout dans les broyeuses pour les mettre en miettes, en copeaux. C'était comme un gros bourdonnement et puis voilà, c'était la fin quoi. On enlevait toutes les traces du crime, j'ai envie de dire. Donc en l'espace de 24 heures, les arbres ont complètement disparu de la circulation. On ne peut pas s'imaginer que c'était juste pour faire passer un convoi de 9 mètres de large, de 2 coques de bateau. C'est aberrant. J'ai eu honte, en fait. Honte de ce que les gens avaient fait le matin. Quelques jours plus tard, je me baladais dans les rues de Luçon et c'était le sujet principal dans toutes les conversations et tous les habitants étaient très en colère de voir ce qui s'est passé. Le maire était en vacances à l'étranger mais a été contacté très rapidement par son adjoint et il était dans une colère noire. Donc il est rentré de vacances quelques jours plus tard. Il a, j'imagine, passé des coups de fil à la préfecture pour savoir le pourquoi du comment, quelle allait être la suite des choses. Si le transporteur allait replanter des arbres, quelle taille d'arbres. Le maire a demandé de replanter des arbres à l'identique. Ça me paraît illusoire, mais il a eu raison de demander ça. Et sur ce, je ne sais plus quel journal a dû contacter la préfecture pour essayer d'en savoir plus. La préfecture qui ne voulait pas trop parler, qui a fini par faire paraître un communiqué en disant que, en gros, il se dédouanait au début. Deux jours plus tard, je crois, un nouveau communiqué de la préfecture en disant effectivement, c'est nous qui avons donné l'ordre, etc. Déjà, ils étaient un peu plus honteux. Et puis, c'est quoi la suite ? La suite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser cette route complètement défigurée avec des arbres centenaires d'un côté et rien de l'autre côté ? C'est comme un canard boiteux, il n'y a qu'une jambe le long de la route.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc cette histoire commence par un arbre qui pousse à Paris dans une cour qui est rue Henri Barbusse, exactement, voilà. Une cour pavée avec des pavés Louis XIV qui autrefois était habitée par des sœurs. Voilà. Donc cet arbre a existé, je me souviens, je suis arrivé en 1970. Donc cet arbre a commencé à pousser à ce moment-là. Il a été coupé à moitié une fois, après il a repoussé de plus belle. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de cesse que les habitants de l'immeuble ne veuillent s'en séparer, le détruire, le couper, parce que ça peut abîmer les murs, ça peut abîmer les fondations, c'est un danger en général. Alors que, paraît-il, d'après un architecte qui habitait l'immeuble, c'était totalement faux. Ça s'appelle un élante, cet arbre. On n'a jamais vu des racines aussi faibles d'un élante abîmer les fondations d'un immeuble.
Moi, je suis arrivé là il y a 4 ans, hein, et très vite, on nous a parlé de problématiques liées à cet arbre. Les racines de cet arbre avaient contribué à péter des canalisations en sous-sol, et qu'il fallait changer ces canalisations, mais ça ne servait à rien de les changer si on n'enlevait pas l'arbre.
Bon, après, une fois que les travaux étaient faits, si on compte que c'était un peu du vent, que les canalisations n'étaient pas en grès, vous étiez en fonte et que la fonte, ça casse beaucoup moins, et puis que ses racines n'étaient pas du tout aussi menaçantes que ça. Bon, c'était trop tard, il avait été coupé, alors voilà, maintenant.
Bon, puis finalement, une fois qu'il était enlevé, j'ai trouvé que la cour était très bien comme ça.
C'est désagréable, les élantes, ça sent pas très bon. Et c'est dangereux à manipuler, parce que quand on rentre dedans, ça casse facilement, sans prévenir. C'est pas des arbres de luxe, les élantes.
L'élante n'a pas la côte, parce que ce sont des arbres qui poussent tout en hauteur, qui sont pas beaux, qui s'installent n'importe où. J'étais favorable à ce que cet arbre soit abattu, parce que bien évidemment, les dégâts étaient considérables. Mais quand même, quand on abat un arbre, c'est une petite partie qui part de la vie de l'immeuble. Donc forcément, on le voit évoluer au fil des saisons, et puis un beau jour, bon ben voilà, on décide qu'il n'a plus sa place là, et on le supprime.
Non, mais il y avait une haine de cet arbre qui durait depuis 50 ans. Il y avait une dame qui prétendait que cet arbre était inutile, et elle le faisait élaguer de manière absurde, et du coup, sa réaction de défense à l'élagage, c'était de devenir de plus en plus touffu. Et alors, il était héroïque, cet arbre, parce que on le massacrait et il revenait. Cette vitalité était insupportable. Alors, elle disait, cette dame, que c'était des graines qui étaient venues du voisin, comme si c'était un intrus, un immigré clandestin. Ah oui, puis alors, on l'accusait de déposer des feuilles dans les chéneaux, qu'il fallait nettoyer les chéneaux. Enfin, il y avait toutes sortes de raisons. Peu de gens l'aimaient. Peu de gens l'ont défendu. Très peu.
Par là maintenant sur ce petit chemin. Donc on va marcher par là. Je m'appelle Marine et on est en train de marcher dans un petit chemin de campagne sur la commune de Jutigny. C'est en Seine-et-Marne. Alors en fait quand j'étais petite, ma grand-mère habitait Jutigny, donc on venait tous les week-ends. Et quand j'ai commencé à m'installer dans cette maison de famille et à me promener un petit peu dans les alentours, assez rapidement, je suis tombée amoureuse d'un arbre. J'ai commencé à remarquer cet arbre qui était là, tout seul au sommet de sa colline. J'étais contente de le voir à chaque fois. Il était là, rassurant, il faisait partie du paysage. C'était l'arbre sur la colline. Alors, c'était un noyer qui devait avoir environ 150 ans. Mais par contre, comme il était placé donc au sommet de cette colline, dans un endroit vraiment très 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 austère pour un noyer, c'est-à-dire sur une terre qui est très calcaire, il n'y a pas d'eau, il y a beaucoup de vent. Donc en fait, c'était comme un noyer bonsaï, quoi. Donc un petit arbre, trapu, rondouillard, mais pas le superbe noyer qui s'étale, voilà, qui impose le respect tout de suite. On se dit, voilà, lui, alors... Non, lui, il est modeste. Il est juste là. Il est beau par sa simplicité. Un petit arbre mignon. Quand je passais devant, j'étais juste contente. Et puis, je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de faire des photos tous les jours, de se mettre au même endroit et de faire une photo. Voilà, tous les jours. Je me suis dit ça. Je ne l'ai pas fait. Alors, après la suite de l'histoire, c'est le drame qu'on a connu en 1999. C'est le drame de la tempête. Chez nous, localement, c'était quand même assez fort. Des arbres tombaient partout dans les forêts. Donc le paysage avait pas mal changé. Et puis là, on prend la voiture pour aller faire des courses, des trucs. Et là, plus d'arbres. Et ben là, c'est un choc, quoi. La colline, elle est là. Mais l'arbre, il est plus là, il est par terre. Cet arbre tout seul sur sa colline, si on retire l'arbre, ça ressemblait plus à rien, quoi. Je rentre chez moi, j'étais bouleversée. Et puis, je vois mon compagnon, je lui dis, attends, j'arrivais pas à trouver mes mots. Je lui dis, l'arbre de la colline, il est tombé, quoi. J'étais vraiment triste, profondément triste. Et puis je me suis dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut trouver une solution, il faut le redresser. Voilà, hop. Et puis donc je commence à en parler à droite à gauche, parce que c'est pas moi qui allais pouvoir le redresser toute seule avec mes petites mains non plus. J'en parle à des amis qui sont agriculteurs et qui ont les engins pour redresser un arbre. Bah, eux, ils étaient partants sur l'idée. Seulement ils me disent, ouais, mais peut-être que le propriétaire, il va être content que son arbre soit coupé. Parce qu'un agriculteur, ça fait faire des détours quand même quand il y a un arbre au milieu de la culture. Bon, c'est plus simple si on va tout droit, quoi. Il faut lui demander la permission. Donc quelques jours passent et puis ses amis nous rappellent. Et ils disent, le propriétaire n'est pas hostile. Il veut bien qu'on aille redresser son arbre. Ça commence à monter un petit peu là. Et donc un beau matin de bonne heure, on est allé avec quelques amis, des pelles, des pioches, etc. Et puis nos amis agriculteurs sont venus avec le gros tractopelle et puis un énorme caillou dans le godet pour mettre sur les racines de l'arbre une fois qu'il serait redressé. Et puis donc le tractopelle s'est mis sur le côté et a essayé de soulever le tronc. Ben, ça marchait pas, ça bougeait pas. Et en fait, après, on a compris que les branches du côté duquel l'arbre était tombé, en fait, c'était enfoncé dans le sol, vu que c'était très mouillé, très humide à ce moment-là. Et comme là, la terre était gelée, la terre les avait figées, les retenait, quoi. Donc, il a fallu, en fait, tronçonner les branches qui étaient prisonnières de la terre. Puis là, ils ont réessayé. Et tout doucement, vraiment tout doucement, il a repris sa place, comme s'il n'avait jamais bougé, et c'était fait. Sans aucun bruit. Voilà. Donc on continue à avancer sur notre petit chemin qui monte un petit peu là. Alors ensuite, moi j'ai dit, cet arbre il va vivre, il faut qu'il revive. Et comme j'avais quand même encore cette petite amertume de ne pas avoir fait mes photos, tous les jours, j'ai dit, bah, je vais les faire mes photos et je fais le pari qui va reprendre. Donc à partir de ce moment-là, je suis allée le voir tous les jours et j'ai fait des photos. Alors l'un des premiers moments, ça a été le premier jour du printemps, avec toute l'équipe avec qui on avait redressé cet arbre. On est allé boire le champagne sous l'arbre. On lui a donné un petit peu à boire aussi, en lui disant, bon, écoute, maintenant, ça y est, c'est le printemps, faut y aller. Alors donc, le temps passe, les jours passent, avec cette question maintenant qui devient un petit peu obsédante, c'est ce qui va reprendre. Alors le problème, c'est que les noyers, ce sont des arbres qui sont assez tardifs. Il fait ses premières feuilles qu'en juin. Donc ça voulait dire que on n'allait pas savoir au printemps s'il aurait repris. C'était toujours un arbre planté là, mais sans une feuille. Bon, on continuait d'y croire, mais c'était plus difficile, quoi. Puis je me souviens d'un jour en juin, puis je faisais des photos, donc je le regarde. Et je dis, non, mais là, il y a un truc, là. Là, la silhouette, elle a changé. Là, il y a un truc. Il avait l'air plus rond. Alors je cours sur tout le chemin et là j'arrive à l'arbre et effectivement je vois sur ces petites branches des tout petits minuscules bourgeons, tout petits mais tout ronds, tout plein de vie. Donc ça y est, c'est gagné, il a repris, il va vivre, c'est super. Voilà, il est là cet arbre. Il est là au sommet de sa colline, on le voit bien maintenant. Alors là, on est en automne, donc il a moins de feuilles, mais il est là, il est toujours présent. Alors il a son gros caillou qui a été mis sur ses racines pour l'empêcher de retomber s'il y avait eu une tempête. Mais donc il est là, et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on pense pas que c'est un noyer qui a donc maintenant 165 ans. Il n'est pas énorme, mais il a une présence. On va se rapprocher du tronc, on va voir. On va les regarder. Hop là, on est au-dessus de l'arbre, là. Alors déjà sur le caillou, il y a marqué « Replanté » le 26 janvier 2000. Je suis contente parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Donc je suis contente de le retrouver. Il est solide, mais il a souffert quand même là. Depuis 2-3 ans, il a un petit peu moins de feuilles chaque année. Donc on espère qu'il va continuer de vivre encore. C'est pas éternel non plus, un arbre quand même. Hein. Le spécialiste des arbres, Augustin Bonardeau, que j'ai rencontré après, quand je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit, mais vous m'auriez demandé mon avis à cette époque-là, mais je vous aurais dit que c'était même pas la peine d'essayer. On ne redresse pas un arbre de 160 ans. C'est impossible. Donc pour lui, ça tenait du miracle, quoi. Un arbre ne peut pas reprendre à cet âge-là. Ça ne fallait vraiment pas le coup d'essayer, quoi. C'est pas possible. Voilà. Cette aventure m'a permis de rencontrer plein de gens pour qui cet arbre compte énormément. J'ai notamment reçu une lettre de 2 pages d'un monsieur qui me raconte que quand il était petit, il passait par cette route pour partir en vacances. Donc cet arbre, c'était le début des vacances, l'arbre des vacances. Que quand il sera mort, il veut que ses cendres soient déposées au pied de l'arbre, enfin bon. Je commence à avoir un petit peu les frissons dans les jambes, les mains bien gelées. Et ben, il fait gris, il fait pas très beau. J'ai un peu froid, mais je suis très bien. On va redescendre ?
Ouais.
It's 7 in the early morning. The only sound is my breathing. As I lay awake, not knowing where it will be, I'm going. But I know.
Des arbres et nous, c'était un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy avec François Connac pour la rediffusion de cette émission diffusée pour la première fois le 10 novembre 2015. Quelques nouvelles de nos personnages et de nos arbres. Les tilleuls coupés à Luçon, à leur place, ont été replantés des arbres au bord de la route. Depuis environ 1 an, ils sont un peu gringalets par rapport aux anciens arbres centenaires, me dit Élise Andrieux. Quant à Marine et son noyer de la colline de Jutigny, l'arbre ne va pas très bien. Sachez-le, il peine en haut de sa colline sans beaucoup d'eau. Avec en plus la sécheresse de cet été, il a fait peu de feuilles. Merci à eux quand même, à Elodie, à Marine, aux habitants de la rue Henri Barbus et à Jacques Bouteau. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, notre stagiaire.
I'll see the next hour through. It falls to the next so soon. Well, my guitar waits for a tune. Where have the songs played gone to? And I know.